Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni voudrait également déclarer que nous attendons la publication de notre stratégie intelligence artificielle plus large qui comprend des considérations éthiques et nous espérons une publication avant la fin de l'année. Sur le texte à proprement parler, le Royaume-Uni voudrait pleinement souscrire aux commentaires proposés par notre collègue des Pays-Bas en ce qui concerne l'interaction entre le DIH et l'éthique, tout comme les commentaires français sur la pertinence de l'éthique militaire. Monsieur le Président, le texte d'introduction des principes directeurs indique clairement que ce groupe est censé de tenir dûment compte des perspectives éthiques pertinentes. Mais de l'avis du Royaume-Uni, et vous vous en souviendrez au travers de notre intervention au cours de la session du mois d'août, c'est que le produit de ce processus GEG doit être rédigé avec la plus grande minutie pour reconnaître l'importance du respect du DIH, sans pour autant ajouter une strate mal définie et des considérations peu claires sous le prétexte de l'éthique. Au mois d'août, le Royaume-Uni a exprimé une position forte. Le DIH est ancré sur des considérations éthiques. Nous avons passé en revue le libellé formulé. Nous restons d'avis qu'il est essentiel de rester clair en ce qui concerne les arguments juridiques et éthiques dans leur interaction. Le Royaume-Uni n'est pas certain, je le crains, que cette idée soit reprise. Le problème est que le suivant, l'éthique, c'est un terme générique. Il ne suffit pas, à notre avis, il ne suffit pas, disais-je, pour simplement parler de considérations éthiques sans avoir dûment étudié ce que le groupe entend par cette expression. Monsieur le Président, le Royaume-Uni propose l'idée que nous traitons d'éthique appliquée ici, c'est-à-dire d'un cadre éthique qui réglemente le comportement dans des champs spécifiques. C'est pourquoi il est indispensable de comprendre le contexte dans lequel nous agissons de façon à identifier les considérations éthiques ainsi que les conséquences qui seraient les plus pertinentes. L'éthique médicale, par exemple, inclut le principe de malveillance, mais parfois il y a un dégât inévitable par rapport à un objectif de bien commun. Et donc, dans le contexte armé, il faut des nuances pour répondre à ce contexte en ce qui concerne les considérations éthiques, pour équilibrer les dégâts par rapport au bien qui en résulte et qui est général. L'idée est que lorsqu'on explore les considérations d'ordre éthique, il faut garder à l'esprit le contexte spécifique d'application en se centrant sur les parties les plus pertinentes des considérations et cadres éthiques. Ce faisant, c'est ce qui nous permet d'assurer un degré suffisant de rigueur par rapport à notre approche vis-à-vis de la question de l'éthique et de ses répercussions pour les technologies émergente dans le domaine des salas. À cette fin, dans le cadre du contexte spécifique du conflit armé, le champ le plus pertinent du discours éthique, c'est l'éthique militaire, qui a une histoire longue et riche, dont on a déjà parlé, comme l'a fait notre collègue français. C'est le domaine de l'éthique professionnelle qui se centre sur les conséquences concrètes découlant des préoccupations éthiques dans le déroulement d'un conflit armé. En guise d'exemple, la tradition de guerre considère que la justice militaire, tout comme le comportement approprié pendant la guerre, doit être retenu. Pardonnez-moi le latin, ces concepts sont décrits dans le cadre de la tradition éthique en reconnaissant le terme de ceux qui pratiquent le droit international, ius ad bellum et ius in bellum. Le terme ius, c'est aussi bien le loi que la justice de manière interchangeable, ce qui prouve clairement la manière dont le DIH, ius in bello, est la loi qui régit le comportement en temps de guerre et est fondamentalement ancrée dans des considérations d'ordre éthique. Ce lien, par ailleurs, est prouvé par la clause Martens, qui est mentionnée au paragraphe premier de cet extrait, sans pour autant une identification pour l'ancrer comme étant un outil d'interprétation important vis-à-vis de la discipline où on la trouve. Cet ancrage est une caractéristique essentielle du DIH. Non seulement le DIH est né de ses préoccupations éthiques, mais le prisme éthique est parfaitement indispensable pour pouvoir permettre son application. Pour résumer, le DIH est une discipline qui est de façon inhérente liée à l'éthique militaire. Monsieur le Président, nous considérons qu'il s'agit là d'un aspect extrêmement important qu'il faut transmettre de façon à pouvoir progresser dans ces débats. Le groupe doit étudier deux points. D'abord, le contexte spécifique dans lequel nous intervenons et ensuite le fait que le DIH est ancré de façon inhérente dans des considérations éthiques. Sans ces principes ancrés dans les considérations et concepts éthiques dans le contexte dans lequel nous parlons, nous restons avec des préoccupations qui ne permettent pas de façon significative de mener le comportement. Et à ce titre, j'aurai quelques commentaires spécifiques portant sur le texte. Là où, dans le document, au paragraphe premier, il est question d'aller au-delà de ces systèmes pour inclure l'acceptabilité morale, il faut être au clair. Est-ce que nous utilisons morale et éthique de façon interchangeable ou bien comme deux concepts distincts? Et si c'est ce deuxième cas, il faut préciser ce que l'on entend par chacun de ces termes. Tout comme d'autres collègues, nous voudrions préciser la raison d'être de ce deuxième paragraphe, c'est-à-dire l'autonomie change le seuil de décision de recourir à la force. Et donc, il y a des considérations politiques et sécuritaires plutôt que des considérations purement éthiques dont il est question. Nous notons que cette question a été soulevée dans d'autres contextes, notamment, par exemple, en ce qui concerne des systèmes pilotés à distance, ce qui a fait l'objet d'une enquête et pas forcément fondée sur des preuves à l'issue de cette enquête. Le recours à la force exige donc une autorisation politique. Cette autorisation est soumise à un processus d'examen national et la vérification qui est associée. Il n'y a pas de preuve que l'inventaire disponible aura un impact sur la nature ou des questions pertinentes dans la prise de décision. Au-delà de ces commentaires, Monsieur le Président, le Royaume-Uni voudrait déclarer que le cadre approprié des considérations éthiques serait au mieux obtenu dans la phase suivante dont va s'occuper ce groupe. En effet, ce processus serait peut-être mieux traité par le développement d'un recueil qui s'inspire des meilleures pratiques et envisage les conséquences pratiques découlant aussi bien des discussions juridiques qu'éthiques qui se tiennent ici. Voilà, Monsieur le Président, l'idée que le Royaume-Uni appuie. Je vous remercie.